Moi, je veux bien répondre sur deux points, parce que je connais bien. L'affaire de la déréglementation du transport aérien, c'est clair que ça a produit une augmentation des vols bien supérieure à l'augmentation des passagers transportés. Bon, j'explique. Dans les années, jusqu'aux années 80, le transport aérien était régi tant au niveau des différents pays qu'au niveau des relations internationales par des règles qui faisaient que dans les pays, pour desservir une relation, le gouvernement désignait une compagnie. Et pour les dessertes entre les différents pays, ça se passait par accord entre les gouvernements et désignation, avec des phénomènes de réciprocité évidemment entre compagnies des deux pays concernés, pour désigner donc sur les relations données un certain nombre de compagnies, mais toujours un nombre très réduit de compagnies. Bien. La déréglementation ou la libéralisation intervenue à la fin des années 80, alors d'abord aux États-Unis et puis qui a gagné l'Europe dans les années 90, a consisté à casser ce monopole d'exploitation d'une relation par une compagnie désignée et de faire en sorte que sur une même relation, il y ait de désigner 2, 3, 4 compagnies, etc. Bon. Mais il est évident que le jour où on a enclenché ce processus, sur la relation concernée, le jour où vous mettez 2 avions au lieu d'un, ou 3 avions de 3 compagnies différentes au lieu d'un, la proportion de personnes à transporter n'a pas été multipliée par 2 ou par 3. Bon, ce qui fait que dans toute cette phase-là, sur les 20 dernières années, les compagnies ont plutôt fait le choix d'acheter des avions plus petits, mais pour avoir un remplissage à peu près correct, mais il y a eu une augmentation très importante du nombre des vols bien supérieur à l'augmentation du trafic passager réel. Bon. Donc on voit bien comment, dans ce cas-là, l'ouverture à la concurrence a engendré une augmentation du nombre des vols avec bon, toute une série évidemment d'inconvénients derrière, l'encombrement des aéroports, les retards au décollage, la saturation de l'espace aérien, bon, j'en passe et des meilleurs. Bon, donc on voit bien là l'effet d'un choix politique. Bon, et également ce phénomène-là de multidésignation. Dans une première phase, on a vu se créer tout un tas de compagnies nouvelles, on a vu une guerre commerciale, etc. Mais au bout du processus, les compagnies les plus fragiles sont mortes et on a eu un processus de reconcentration. Bon, mais comme entre-temps, il y avait eu privatisation des compagnies, on est passé d'anciens monopoles qui en Europe étaient plutôt publics à de nouveaux monopoles au bout du processus de décantation lié à la concurrence, mais qui là étaient des monopoles privés. Bon. Et cette domination par de nouveaux monopoles a fait aussi que le système de transport et le système de correspondance s'est fait à travers le phénomène des hubs, hein, ce qu'on appelle des plaques tournantes sur lesquelles on rabat le trafic régional et ensuite on éclate. C'est-à-dire au lieu de faire du point A au point C, on amène tout le monde de point A, des multiples points A au point B, pour ensuite aller vers des points C, etc. Bon, donc on a aussi, à travers l'organisation de la desserte aérienne, une augmentation engendrée du trafic par ce biais-là également. Bon. Donc au total, le résultat des courses, c'est une augmentation du nombre de vols à l'échelle de la planète qui est liée donc à la déréglementation du transport aérien. Deuxième élément, sur le phénomène... Sur le phénomène du transport routier. Moi, je suis beaucoup moins optimiste sur les explosions sociales dans le transport routier. J'ai bien connu ça. Dans les années 90, pour en avoir été un acteur, je pense malheureusement que le mouvement syndical a mangé son pain blanc dans le transport routier. Et que la phase qu'on a connue dans les années 90 avec les fameux barrages routiers, 92, un mélange, les artisans, les patrons, les syndicats, sans qu'on arrive à savoir qui prenait le pas sur les autres, puis 96 et 97, où là c'était clairement les organisations syndicales. Il faut bien voir que ces luttes-là, qui étaient des luttes pour le paiement des heures, pour les conditions de travail, les durées du travail, etc., elles ont obtenu des résultats à l'époque, parce que les grands groupes de transport avait intérêt à un certain progrès social dans le secteur du transport routier, parce que c'était pour eux le moyen de tuer les petites entreprises qui ne pouvaient pas suivre sur la question sociale et de favoriser la concentration du secteur. Et c'est ça qui s'est passé. Hein, dans les... Non, non, mais bon, oui, pardon. Mais donc, dans le transport routier, une fois cette concentration du secteur réalisée par le biais d'un certain relèvement des standards sociaux qui plombaient les petites entreprises et qui les amenaient à la faillite et donc à être rachetées par les autres, comment dirais-je, le système a complètement changé à partir du moment où les grands groupes de transport ont commencé à réfléchir à comment elles pouvaient effectuer des gains de productivité et des gains de financiers en utilisant les possibilités qui se dessinaient avec l'élargissement de l'Union européenne. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'Union européenne, il y a eu une déréglementation du transport routier, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les échanges internationaux puissent être faits de manière... naturel, simple, sans obstacle entre les entreprises routières des différents pays de l'Union européenne. Mais il faut bien voir également que dans cette déréglementation, on a aussi autorisé les entreprises de n'importe quel pays de l'Union européenne à effectuer, dans le prolongement d'un transport international de pays à pays, ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire des transports à l'intérieur du pays de destination, fait par le transporteur du pays d'origine. Hein, ça nous rappelle quelque chose dans le débat actuel, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands groupes de transport de l'Ouest ont mis le pied sur le frein du progrès social. C'est terminé, on est dans la phase de régression sociale actuellement, dans le transport routier, de réallongement des durées du travail, c'est pour être plus clair. Et les grands groupes de transport de l'Ouest, donc Allemagne, Hollande, France pour l'essentiel, ont anticipé l'ouverture de l'Union européenne aux 10 nouveaux membres en profitant de la débâcle des économies administrées suite à la chute du mur de Berlin pour racheter en masse des entreprises de transport en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, enfin bon, dans l'ensemble des pays de l'Est. Et évidemment, au fur et à mesure que ces pays entrent dans l'Union européenne, les transporteurs de ces pays acquièrent naturellement le droit de faire du transport international de pays à pays, ça va de soi, mais aussi, dans le prolongement d'un transport international, de faire du cabotage dans le pays de destination. Bien. Et donc, les grands groupes de transport ont très vite compris qu'un chauffeur polonais ou bulgare, payé 5 fois moins cher qu'un chauffeur allemand, français ou hollandais, était évidemment un gain de productivité, un gain d'efficacité tout à fait considérable. Bon. Alors si vous allez en Allemagne, ça commence à se voir en France, hein, mais si vous allez en Allemagne, c'est tout à fait spectaculaire. Vous regardez les remorques, l'immatriculation, alors elle peut être hollandaise, allemande, ça vient de Rotterdam, de Hambourg ou d'ailleurs, et puis vous regardez le tracteur. Hein, vous savez, dans un camion, il y a deux parties, hein, une partie remorque et une partie tracteur. Bon, et le tracteur, il est très souvent immatriculé en Pologne, en Hongrie, etc. Bon, il n'y a pas besoin de faire une enquête approfondie pour savoir que le type qui est au volant, il ne vient pas de Hambourg, quoi. Donc, dans le transport routier, on est dans une phase actuellement où les transporteurs, les grands groupes de transport, sont en train de monter en puissance dans l'exploitation des opportunités offertes par l'élargissement de l'Union européenne. Bon, c'est-à-dire, c'est du Bolkestein avant l'heure, mais parfaitement légal. Parfaitement légal dans le transport routier, et ça depuis, évidemment, que l'ouverture de l'Union européenne s'est faite. Bon, et c'est un processus qui est appelé, évidemment, à se développer, et du coup, évidemment, la capacité que l'on a, je dirais, à réorienter les politiques de transport à l'échelle de l'Union européenne, parce que les politiques de transport, ce n'est pas seulement dans le cadre national qu'on peut changer les choses, notamment en trafic de marchandises, il y a une partie qui est du changement qui relève d'une dimension européenne, se sont pas simplifiés. Hein, se sont pas simplifiés, parce qu'évidemment, pour une partie de ces pays nouveaux membres, ils vivraient comme une agression le fait que l'on remette en cause l'avantage compétitif que constitue chez eux de bas coûts d'exploitation des entreprises de transport, etc. Donc ça nous crée quand même une vraie difficulté dans le transport routier. Et le basculement, enfin l'alternative, moi je crois que l'alternative se pose pas, elle se pose plus en termes de quelle est la source d'énergie pour le transport terrestre ou le transport routier, plutôt que est-ce qu'on peut substituer ex nihilo au transport routier, à un autre mode de transport. Bon, parce que je n'ai pas le chiffre exact, mais l'essentiel des transports de marchandises dans un pays comme la France, qui se fait par le transport routier, se fait sur une distance inférieure à 150 km. Alors, je ne me souviens plus quel est le pourcentage de déplacement de marchandises inférieur à 150 km. Mais c'est 60 ou 70%, hein, c'est dans ces eaux-là. Bon, autant dire que sur ce genre de distance inférieure à 150 km, il n'y a pas d'alternative au transport routier. Donc après, l'alternative, elle est sur, c'est plus le pétrole, c'est une autre source d'énergie. Mais très franchement, vous ne déplacerez pas une marchandise sur 150 km, sur moins de 150 km. Ça veut dire que beaucoup, c'est 50, 70 km, etc. Il n'y a aucune solution ferroviaire à ça. Les solutions ferroviaires, elles sont sur les trafics de transit, quand on traverse la France sans s'arrêter. Elles sont quand vous devez décongestionner la vallée du Rhône, là, l'autoroute ferroviaire. Mais Philippe en parlera, il est plus technicien que moi sur le sujet. Bon, voilà, les alternatives, elles sont là, mais pas sur 50 km, quoi.